Je bénis le Seigneur que Josaphat ait eu cette liberté de vous apporter ce témoignage. Ça, c'est un témoignage. Et je pense que il prépare justement ce que nous avons à lire ce soir. Puisque en ce mardi soir 4 juillet, nous continuons notre thème « Vous serez mes témoins ». Et ce soir, comme vous le savez, nous allons nous pencher sur ce chapitre 8 des Actes. Est-ce qu'il y en a qui ont pu le lire déjà ? Pour eux-mêmes, dans cette journée, nous vous avons recommandé de le faire. Hein? Et je suis heureux de voir que quelques-uns l'ont fait. C'est un chapitre qui compte 40 versets. Et vous savez, quand on l'a lu, on va se dire, ben voilà, je l'ai lu, mais on va le méditer. Et c'est ce que je voudrais, qu'on entre justement dans cette méditation. Tes paroles se sont-elles trouvées, disait Jérémie, je les ai mangées. Je les ai mangées. Et alors, elles ont fait l'allégresse et la joie de mon cœur. Ce que l'on mange nous pénètre, c'est en nous, et cela nous fortifie, nous vivifie, et c'est comme cela que nous faisons des progrès. Dieu notre Père, nous voulons te remercier pour le témoignage de notre bien-aimé Josaphat. Tu nous as montré combien tu es grand, combien tu es merveilleux, et nous sommes reconnaissants pour ce que tu as accompli dans sa vie. Nous te bénissons pour les parents qu'il a eus. Et nous te faisons éperdument confiance pour eux, et nous te remercions de ce que nous savons que ce ne sont pas nos connaissances bibliques même qui nous sauvent, mais ta personne. Et cette personne qu'ils ont connue comme au travers un voile, c'est celui dont nous savons qu'il a porté non seulement nos péchés, mais ceux du monde entier. Et nous croyons qu'il n'avait pas dit non à ta grâce et à ce Jésus qu'il savait avoir été crucifié. Nous te remercions de ce que nous aurons des surprises heureuses dans le ciel. Mais nous te demandons aussi que tu nous parles très fort aujourd'hui encore pour que nous ne soyons pas de ceux qui pourraient être rejetés après avoir cru être sauvés alors qu'ils n'en avaient qu'une profession extérieure. Nous te bénissons parce que ce n'est pas l'assurance du salut qui nous sauve, mais ton salut accompli à Golgotha. Et nous te demandons que nous puissions apporter ce salut à beaucoup d'âmes, pour que beaucoup jouissent de ces certitudes qui sont les nôtres, qui n'ont peut-être pas été les certitudes d'autres personnes en leur temps, mais que tu as tout de même aimé du même amour. Louange à toi, Seigneur Jésus. Amen. Alors, mes amis, ce matin, par la vie et le martyr d'Étienne, nous avons, par le Saint-Esprit, appris à mieux connaître ce que veut dire être témoin du Seigneur. Saul de Tarse, devenu l'apôtre Paul, a confessé lui-même au Seigneur sa responsabilité dans la lapidation d'Étienne. Nous l'avons souligné ce matin. Il dit à Jésus glorifié, lorsque le sang d'Étienne, ton martyr, littéralement c'est cela qu'on devrait dire, lorsque le sang d'Étienne, ton martyr, était répandu, j'étais aussi présent. Et approuvant et gardant les vêtements de ceux qui le tuaient. Acte 22, verset 20. C'est un chapitre que nous lirons la semaine prochaine. Et je vous souligne encore ceci, c'est que témoin veut vraiment dire martyr. Et un témoin, c'est une personne qui a vu et entendu certains faits et qui en témoigne publiquement au risque d'être mis à mort. Et c'est ce qui est arrivé à Étienne. Et je dirais ceci encore, c'est que la méthode de la Bible, c'est de nous faire voir dans une personne ce qu'est une vérité. On parle du témoin, d'un témoignage. Eh bien, qu'est-ce que c'est qu'un témoin? Qu'est-ce que c'est une vérité? La Bible nous donne un exemple. Elle nous montre une personne, Étienne, et là, vous apprenez ce qu'est un témoin. Et un témoignage. Et je me demande si, parce que nous ne faisons qu'effleurer ce sujet, si dans cette journée, vous avez essayé de revenir sur le témoignage d'Étienne et sur sa personne en comptant quelles étaient les qualifications d'Étienne comme serviteur de Dieu. On peut en tout cas en trouver 7, qui est le chiffre de la perfection. Premièrement, on rendait de lui quoi? Un bon témoignage. Deuxièmement, il était plein du Saint-Esprit. Puis, il est dit qu'il était plein de sagesse. Troisième. Puis, qu'il était plein de foi. C'est toujours dans ces versets. Verset 5. Puis, qu'il était plein de grâce. Puis, qu'il était plein de puissance. Et quand vous le voyez mourir en ayant sur les lèvres des paroles de pardon, comme Jésus, on peut dire qu'il était plein d'amour. Voilà un témoin du Seigneur, plein de foi, plein d'amour, une plénitude. Toutes ses sources étaient dans le Seigneur, comme nous le lisons au psaume 87. Alors, les résultats d'une telle vie, il faisait des prodiges, de grands miracles parmi le peuple, comme on l'a vu au verset 8. Il parlait avec une sagesse et un esprit irrésistible. On ne pouvait pas le contredire. Et alors, il a soulevé contre lui une haine terrible, comme son maître, comme Jésus avait connu. Pour son amour, on a été les adversaires de Jésus, comme l'annonçait un psaume. Alors, je vous ai demandé de comparer aussi la mort d'Ananias et de Saphira et celle d'Étienne. Méditez sur ces morts. Quelle mort voudriez-vous? Moi, je dis que ma mort soit semblable à la sienne. Parce que je suis convaincu d'une chose. Notre mort, elle doit glorifier Dieu. Est-ce que vous êtes convaincu de cela? Notre vie, elle doit être à la gloire de Dieu. Mais le terme de notre vie doit être aussi une occasion de glorifier Dieu. Et de cela, j'en suis convaincu par la parole. Écoutez Jésus ressuscité qui a restauré Pierre et qui lui dit de le suivre. Mais avant, il lui a annoncé de quelle mort il allait glorifier Dieu. Quand tu étais jeune, chapitre 21 de Jean, tu allais où tu voulais. Quand tu seras devenu vieux, un autre te scindra et te conduira où tu ne voudras pas. Et nous savons par la tradition que l'apôtre Pierre, lui aussi, est mort martyr. crucifiez, dit-on, la tête en bas par humilité, parce qu'il se souvenait de son Seigneur crucifié. Eh bien, cette mort devait glorifier Dieu. Et alors, Pierre a dit, oui, mais alors, agent, qu'est-ce qui lui arrivera? Que t'importe, toi, suis-moi. Et je me souviens, qu'un jeune homme au refuge, notre communauté que nous avons fondée il y a 40 ans, et qui prospère par la grâce de Dieu à Nice, un jeune homme qui était venu dans notre communauté, il n'avait jamais entendu parler du Seigneur, et j'avais prêché sur ce que t'importe, toi suis-moi. Le lendemain, il est revenu et il a dit, le Seigneur m'a sauvé. Pas moi qui l'ai fait. Mais c'est cette parole, comme aussi mon gendre qui continue l'œuvre du refuge avec ma fille, lui, la première fois qu'il a entendu la parole, c'est aussi un texte, mon fils, donne-moi ton cœur. Il avait 15 ans. Mon fils, donne-moi ton cœur. C'était un dimanche, nous avions eu des baptêmes, et puis le lendemain, dans le jardin du refuge, je vois ce jeune homme qui vient, puis il me dit, Monsieur Racine, j'ai rencontré Jésus-Christ sur le pont Barla. Le pont Barla, c'est un pont de Nice. Moi, j'étais un petit peu surpris. Et je lui dis, et qu'est-ce qu'il t'a dit? Mon fils, donne-moi ton cœur. Je sortais du lycée, et ça m'a transpercé. Il n'avait jamais entendu l'évangile. Il était de famille catholique aussi. On ne lisait pas la Bible. On lui a même défendu de lire la Bible. Mon fils, donne-moi ton cœur. Alors je lui dis, alors s'il t'a parlé, tu aurais peut-être quelque chose à lui dire. Il est monté dans ma tour. On a une petite tour là. Et puis on s'est mis à genoux. Je lui ai pas dit, répète ma prière. J'ai dit, tu veux dire quelques mots au Seigneur? Il s'est mis à prier. Il n'avait jamais prié. Un enfant qui naît, s'il a la vie, il respire. Et la prière, c'est la respiration de l'âme. Si c'est l'Esprit de Dieu, eh bien, par la grâce de Dieu, son témoignage, alors qu'il a été persécuté, son père était croupier du casino de Nice, eh bien, son témoignage a amené toute la famille au Seigneur, celle qui habitait Nice, les personnes qui habitaient Nice. Son père, sa mère, c'est à la gloire de Dieu. Si vous laissez la parole vous pénétrer, comme Josaphat l'a fait, quand le Seigneur lui a donné une parole, c'est dans l'Écriture, eh bien, il a été libéré. Et le Seigneur l'a conduit plus loin. Alors, maintenant, nous disions que notre mort doit glorifier le Seigneur. Le Seigneur Jésus l'a dit à Pierre, de quelle mort il allait le glorifier. Et quand j'entends Paul, il dit, Christ, lui, il sera magnifié dans mon corps, soit par la vie, soit par la mort. De cela, il est certain. Il dit, moi, je ne sais pas ce que je dois choisir. Si je dois vivre, il en vaut la peine. Mais si je dois mourir, ce n'est pas une catastrophe. C'est aller vers le Seigneur, la mort m'est un gain, mais il était conscient qu'il désirait que le Seigneur soit glorifié dans son corps, soit par la vie, soit par la mort. Est-ce que vous pensez que la mort d'Ananias et Saphira glorifiait Dieu? Mourir parce qu'on est dans le mensonge, c'est une chose terrible, être retranché à cause de cela. Alors, comparez la mort d'Étienne qui meurt sous les pierres dans la rue et la mort d'Ananias et Saphira qui meurent dans la communauté, mais foudroyés parce qu'ils ont péché. Je vous en supplie, mes amis, si nous avons compris quelque chose au témoignage, soyons fidèles jusqu'à la mort pour recevoir quoi ? Apocalypse 2:10, la couronne de vie. Ce qu'Ananias et Saphira ont perdu, je ne dis pas leur salut, c'était des croyants, mais ils ont perdu leur couronne, parce qu'ils n'ont pas été consécrés. conséquent. Alors que Dieu nous donne la foi, le courage et la fidélité dont Étienne nous a donné l'exemple, pour que personne ne perde sa couronne. Gardons-nous du péché, quel qu'il soit. Car vous savez, Ananias et Saphira étaient un couple connu, un couple aisé dans l'Église primitive. Ils ont perdu, par leur manquement, leur vie terrestre et leur couronne céleste. Quelle mort voulons-nous ? Alors on arrive au chapitre 8. Et dans ce chapitre 8, nous voyons comment Dieu agit pour que ses enfants exécutent sa parole. Saul, on retrouve ce Saul de Tarse, avait donc approuvé le meurtre d'Étienne. Et il y eut en ces jours-là, une grande persécution contre l'Église de Jérusalem. Et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Saul, de son côté, des hommes pieux ensevelirent Étienne et le pleurèrent à grand bruit. Saul, de son côté, ravageait l'église, pénétrant dans les maisons, il en arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Vous voyez que Dieu permet qu'à Jérusalem, il y ait une persécution. Et pour quelle raison ? Quelle était la parole que Jésus avait dit avant de s'en aller au ciel ? Vous serez mes témoins où ? À Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Mais voilà, on était quand même bien à Jérusalem. On était ensemble et on oubliait en quelque sorte la mission que le Seigneur avait confié. Alors, qu'est-ce qui arrive ? Bien, il arrive la persécution qui est permise par le Seigneur. Il y a bien Satan derrière, mais au-dessus de Satan, qui est-ce qui permet à Satan d'agir ? C'est le Seigneur. Comme vous le voyez dans le livre de Job que nous avons étudié l'année dernière, Satan est quand même contrôlé. Il ne peut pas tout faire. Jusque-là, mais pas plus loin. Il cherche à piéger Job, à faire du mal à Job. Dieu permet qu'il ait une certaine action, mais il lui dit « Tu ne toucheras pas à sa vie. » Et Dieu donne à Job l'occasion de relever le défi. Satan a dit devant Dieu « Ce n'est pas pour rien qu'il te craint, c'est uniquement parce que tu l'as béni. » Mais si tu commençais à lui enlever un peu ses possessions, tu verrais qu'il te maudirait en face. Et Dieu permet l'épreuve pour que Job puisse se justifier de cette accusation du diable. Et c'est le diable qui est vaincu. Alors cette persécution, elle est permise par Dieu. L'Église est dispersée pour que l'Évangile entre en Judée, en Samarie, avant d'atteindre les extrémités de la terre. C'est pourquoi nous disons que Dieu veille toujours pour que sa parole ait un accomplissement. Puis nous avons vu, et je l'ai rappelé à nos enfants ce soir, qu'il veille aussi pour honorer nos corps, parce qu'il a sauvé aussi nos corps. Et ce corps d'Étienne qui gisait dans le sang et les pierres, le Seigneur a voulu honorer ce corps qui était pendant sa vie le temple du Saint-Esprit. Et le Dieu qui a enseveli lui-même Moïse, il a permis que des hommes pieux viennent ramasser le corps d'Étienne pour lui donner une sépulture. Et surtout, chez les Juifs, c'était quelque chose de très important. Mais évidemment, ils ont mené un grand deuil sur lui parce que Étienne avait eu une grande place dans leur cœur. Ils pouvaient se réjouir de savoir qu'il était auprès du Seigneur, mais quand même, le vide se faisait sentir. Un homme comme lui, et plusieurs pouvaient se dire, mais enfin, pourquoi est-ce que Dieu ne l'a pas maintenu? Comment on pouvait dire, mais pourquoi est-ce que Jean a été décapité quand on pense qu'il était si jeune? On dit quelquefois, en entendant qu'un homme au service du Seigneur a été repris jeune, on dit, il n'avait pas achevé sa course. Qu'est-ce que vous en savez? On sert au conseil de Dieu, ce n'est pas le nombre de nos années qui compte. C'est de bien vivre ces années. Et il y a des gens qui ont vécu quelques années seulement avec le Seigneur, ou je dirais quelques jours seulement, les nouveaux convertis, et que le Seigneur a repris en pleine jeunesse, mais qui ont fait une mort à la gloire de Dieu. Je me souviens dans mon ministère à Lézun de jeunes filles et qui se sont données au Seigneur alors qu'elles étaient tuberculeuses, qui étaient fiancées, et le jour où le Seigneur a pénétré leur cœur, eh bien, leurs fiancées en étaient détachées. Elles allaient vers le plus excellent, vers le bien-aimé. Et je n'ai jamais vu des morts si glorieuses que ces morts de jeunes. C'est un élan vers le Seigneur. Alors que souvent, de vieux chrétiens font des morts misérables. Pourquoi? Parce qu'ils se sont jamais jugés quotidiennement de leurs manquements. Et alors, tout à coup, ils sont conscients qu'ils vont entrer dans la présence de Dieu et ils ont des angoisses, ils ont des terreurs qui ne devraient pas exister. Car si on s'était jugé de nos péchés dans le quotidien, eh bien, on n'aurait pas un gros sac qui nous voile la personne du Seigneur. On se réjouirait de s'en aller vers lui. On serait détaché de tout cela. Alors, veillez et prenons garde de ce que nous vivons présentement pour que nous soyons toujours prêts pour le départ. Et je vous disais que c'est la première fois que nous trouvons le mot « église » suivi d'une détermination géographique. Il est parlé de l'église de Jérusalem et on pressent que d'autres églises locales vont être fondées. Il y aura l'église d'Antioche et l'église d'autres villes, comme nous le verrons plus tard, en lisant la seconde partie où nous voyons l'apôtre Paul qui a reçu la révélation de l'Église accomplir son ministère. Mais je vous disais qu'à ce moment-là où nous trouvons le mot « Église », nous reviendrions sur ce terme qu'a employé le Seigneur Jésus pendant son ministère dans le chapitre 16 de Matthieu. Parce que cela est bien important. On se trouvait à Césarée de Philippe, au pied de l'Hermon, il était là avec ses disciples, et Jésus leur a posé cette question, verset 13. « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme ?» Alors, les disciples répondent, les uns disent, parce qu'ils ont été envoyés pour annoncer l'Évangile, alors ils ont entendu les commentaires de la foule. Les uns disent, tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, parce que quand on lit le livre de Jérémie, on voit que Jérémie a beaucoup de traits qui ressemblent au Seigneur Jésus. Alors, quand on pensait à Jérémie, on pensait à Jésus, ou quand on voyait Jésus, on pensait à Jérémie, ou alors à l'un des prophètes. Et le Seigneur va plus loin et leur dit, mais vous, qui dites-vous que je suis? Et vous ce soir, qu'est-il pour vous, le Seigneur Jésus? Dans ce 4 juillet,
1989. Pouvez-vous répondre? Qu'est-ce qu'il est pour vous, le Seigneur Jésus? On a entendu les petits dire leur réponse ce soir, et je pense qu'elles étaient vraies. Mais nous, ici, qu'est-il pour nous? Alors c'est Pierre qui a répondu. Il répond spontanément. Tu es le Christ, c'est-à-dire le Messie, loin du Seigneur. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Mais Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Vous savez, quand on confesse le Seigneur, une vraie confession, ça ne vient pas de notre cœur naturel. C'est mon Père qui est dans les cieux qui t'a révélé cela. Et moi je te dis que tu es Pierre et que sur cette pierre je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elles. Je te donnerai les clés du royaume des cieux et ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. C'est donc là que Jésus a employé ce mot « église » qui veut dire « ceux que Dieu a appelés hors d'eux ». Les appelés hors d'eux. C'est un groupe tout à fait nouveau qui est composé des Juifs qui se seront donnés au Seigneur et des païens qui eux aussi auront accepté le Seigneur. Et ensemble, ils formeront une unité qui s'appellera l'Église. Mais comme nous vous le disions l'autre jour, l'Église ne pouvait naître que de la mort de Jésus et de sa résurrection. Si le grain de blé ne meurt, il demeure seul. S'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Et c'est comme ça que est née l'Église, fondée alors le jour de la Pentecôte, quand le Saint-Esprit est venu baptiser en un seul corps ces individus qu'ils avaient été comme disciples du Christ. Ils ont été formés en un seul corps et sont devenus les membres du corps de Christ. Nous aurons l'occasion de voir cela plus loin. Verset 4. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Je pense que vous êtes d'accord avec moi pour reconnaître que ces dispersés n'étaient pas découragés. Ils avaient tout perdu. Et moi, je pense que ceux qui avaient donné leurs biens étaient drôlement contents de les avoir donnés. Parce que quand on doit quitter sa ville, sa maison, bien, on est heureux d'avoir donné cela au Seigneur. Et je pense quelquefois, quand le Seigneur sera sur les nuées et qu'il nous appellera à lui, est-ce que nous allons prendre nos biens avec nous? À qui resteront-ils? Et quelle œuvre est-ce que ces biens des chrétiens financeront? L'œuvre de qui? L'œuvre de l'Antichrist. Les chrétiens attachés à l'argent aujourd'hui, bien qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils sont les capitalistes de l'Antichrist. Parce que c'est ces biens-là qui risquent de financer l'œuvre épouvantable de l'Antichrist une fois que l'Église sera enlevée. Et beaucoup auront perdu leur couronne. Que le Seigneur nous parle pour que nous vivions au jour le jour, que nous ne devenions pas des capitalistes, mais que les biens que le Seigneur nous donne, nous trafiquions avec eux, et nous les fassions valoir pour l'œuvre de Dieu aujourd'hui. Mais on dit oui, mais demain, ben chaque jour suffit sa peine, demain le Seigneur sera encore là, et il nous donnera le nécessaire. Que le Seigneur parle à nos cœurs, et nous verrons des choses merveilleuses se produire si nous sommes conséquents. Donc, ces dispersés ne se plaignaient pas d'avoir tout perdu, mais ils annonçaient une bonne nouvelle. C'est quand même quelque chose.
on n'avait pas pu leur enlever le Seigneur. Ils avaient la bonne nouvelle. J'ai connu une princesse russe à Paris et qui disait, pendant la révolution de 1917, nous avons tout perdu. Nous étions riches à Moscou, nous avons tout perdu. Les communistes nous ont tout pris, mais ils n'ont pas pu m'enlever mon sauveur. Et elle était riche de son sauveur. Elle rendait à Paris un témoignage merveilleux. C'était la comtesse Lévine que j'ai eu le privilège de connaître. Eh bien, soyons de ceux dont les cœurs sont attachés au Seigneur, à qui appartiennent l'or et l'argent, qui ne nous a pas promis la richesse, mais le nécessaire, notre pain quotidien. Et qui nous donne ce qu'il ordonne. S'il nous demande d'accomplir une œuvre, il donnera ce qui est nécessaire. Nous nous attendons à lui. Philippe est donc un de ceux qui a compris qu'il devait quitter Jérusalem. Étant descendu dans une ville de Samarie, il y prêcha le Christ. Il est sûr de son chemin parce que Jésus a dit qu'il fallait annoncer la bonne nouvelle en Samarie, puisque les apôtres n'y vont pas. Lui, quoique diacre, mais qui a le don d'évangéliste, comme on le verra dans un autre chapitre des Actes, il est évangéliste en même temps qu'il a servi aux tables, il a commencé très humblement comme diacre, mais il a un don d'évangéliste, alors il va en Samarie. Et qu'est-ce qu'il y prêche? Des doctrines. Est-ce que c'est ça? Non, il y prêche une personne. Et voyez-vous, c'est là que je vois que Josaphat a été inspiré pour nous souligner que ce qui l'a touché, c'est qu'on a prêché quelqu'un. On n'a pas prêché des doctrines. Voilà, dans votre milieu, il y a des fausses doctrines, il y a ceci, il y a cela. C'est chez nous que tout est vrai. Et puis quand on arrive chez nous, hein, quelle misère. Quelle misère. C'est cela qui est tellement triste. Et les gens sont déçus. Alors ils ont quitté un milieu et puis ils retrouvent les mêmes misères dans nos milieux. On se ressemble étrangement. La chair reste la chair. Et la chair du chrétien, elle n'est pas meilleure que la chair des païens. Comprenons-le bien. Il y a des païens qui nous montrent l'exemple. Et c'est Jésus qui l'a dit. Il a admiré un païen. Quand il a entendu certaines paroles d'un païen, il l'admira. Ou nous aurions dit oui, mais... Eh bien, Jésus n'a pas dit oui, mais... Il l'admira. Et il l'a cité en exemple. Il a dit, je n'ai pas trouvé en Israël une aussi grande foi. Que ce soit un païen ou que ce soit une cananéenne, la femme qui avait cette fille malade. Jésus l'a admiré. Et il lui a répondu. Alors Philippe s'en va à Samarie. Puis qu'est-ce qu'il va leur dire? Il prêcha le Christ dans ces lieux où Jésus lui-même est allé pour la femme samaritaine et qui est devenue la première évangéliste de la Samarie. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe. Ces Samaritains, c'était des gens justement qui savaient que le Messie devait venir. Même la Samaritaine, hein, avec ses saints maris qu'elle avait eus, le sixième avec qui elle vivait, qui n'était pas son mari, hein, avant qu'elle connaisse le vrai septième, qui était le Seigneur lui-même, hein, eh bien, la Samaritaine a dit, quand le Messie viendra, hein, il nous expliquera toutes choses. Donc les Samaritains avaient une connaissance de la venue du Messie, mais ils avaient une religion vraiment mélangée. Et Jésus leur dit, vous adorez, vous ne savez quoi? Le salut vient des Juifs. Et ces Samaritains vont faire l'expérience avec Philippe que le salut vient vraiment des Juifs. C'est un Juif qui va leur annoncer la bonne nouvelle. Alors que les Samaritains, les Juifs, se haïssaient. On ne se saluait pas. Et même quand un Juif passait par la Samarie ou qu'une personne allait à Jérusalem par la Samarie, on ne le recevait pas, on ne leur offrait pas l'hospitalité. Et c'était si vrai qu'un jour que Jésus a traversé la Samarie,
avec ses disciples, on a refusé l'hospitalité à Jésus et à ses disciples. Pour quelle raison? Parce qu'ils allaient à Jérusalem. Ça n'a pas changé. On leur refuse l'hospitalité. Alors, les disciples qui avaient reçu une puissance de la part du Seigneur, Jacques et Jean, sont choqués, sont outrés, et qu'est-ce qu'ils disent à Jésus? On va faire descendre le feu du ciel. Vous savez, c'est dangereux de manier de la puissance. Ils ont manié de la puissance, ils ont vu qu'ils avaient de la puissance. Eh bien, ils pensent à Élie qui a fait descendre le feu du ciel. Et eux aussi, puisqu'ils ne nous ont pas reçus, on fait descendre le feu du ciel, au nom du Saint-Esprit. Vous voyez tout ce qu'on peut faire. C'est dangereux de manier de la puissance. Il nous faut de la puissance pour tout souffrir, pour aimer, pour pardonner, pour supporter. Alors voilà notre Philippe qui est dans ce milieu-là. Et les foules sont attentives aux choses que leur disait Philippe, qui était accompagné par la puissance de Dieu qui accomplissait les miracles qu'il faisait. Car les esprits impurs sortaient de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Et résultat, il y eut une grande joie dans cette ville-là. Quand il y a vraiment des conversions, il y a de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent, mais ici, il y a de la joie sur la terre. Hein. Il y a une grande joie dans cette ville-là. Il y avait auparavant, dans la ville, un homme nommé Simon, qui se donnait pour un personnage important et qui exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de Samarie. Oh, avant l'arrivée de Philippe, ces gens qui ne connaissaient pas la vérité étaient pris par cet homme qui maniait aussi, lui, une certaine puissance, mais qui ne venait pas du Seigneur, mais de Satan lui-même, et qui les subjuguait. Et ces pauvres Samaritains suivaient ce magicien qui se prenait pour un grand personnage. Et il est dit au verset 10 que tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient « Celui-ci est la puissance de Dieu ». Parce que c'est très difficile de discerner si c'est la puissance de Dieu ou si c'est la puissance de Satan quand on n'a pas été instruit dans la vérité. Ils pensaient que c'était la puissance de Dieu appelée la grande. Quand on a été élevé dans un milieu superstitieux, bien on est tout prêt à être embarqué par le premier venu qui s'impose par la chair et qui prend une autorité sur les ignorants. Ils l'écoutaient, verset 11, attentivement, parce qu'ils les avaient longtemps étonnés par ses actes de magie, l'astrologie par exemple, et il y en a aujourd'hui qui ne font que consulter les astrologues, et ce sont des baptisés. Ils veulent connaître l'avenir. Eh bien, Simon le magicien leur prédisait l'avenir, et non seulement cela, ils consultaient les morts, et ils faisaient des exorcismes, ils prétendaient pouvoir chasser les démons, et tout cela par la puissance de l'ennemi. Mais quand ils eurent cru à Philippe, ah, c'est quelque chose, ils ont discerné que le message venait d'ailleurs, non pas d'en bas, mais vraiment d'en haut. Quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et le nom de Jésus-Christ, c'est-à-dire qui leur présentait la personne de Jésus, c'est beau, hein? Hommes et femmes furent baptisés. Ils se sont fait baptiser. Mais quand Simon a vu ces résultats et que tout se tournait vers le Seigneur, qu'est-ce qu'il a fait lui aussi? Ben, il a dit, moi aussi je me convertis. Il ne voulait pas rester seul. Hein? Et il voulait continuer d'avoir une influence. Alors il s'est, soi-disant,
converti et il s'est fait baptiser. Il a voulu porter le signe aussi du christianisme. Et c'est comme ça qu'a commencé la profession chrétienne sans la vie. Est-ce que Simon avait la vie? Non. Il était de ce nombre dont Jésus a parlé. Quant à Jérusalem, il avait fait des miracles. Il est dit que beaucoup crurent en lui, mais il est ajouté, Jésus ne se fiait pas à eux, parce qu'il connaissait tous les hommes, il savait ce qui était dans l'homme, et il n'avait pas besoin qu'on lui rendît témoignage d'aucun homme, parce qu'il connaissait ce qui était dans l'homme. Alors, Simon crut, soi-disant, et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe. Il voulait rester vers celui qui agissait de cette manière-là. Il voyait bien que c'était une autre puissance que la sienne. Et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Alors, les apôtres de Jérusalem ont appris ce qui s'était passé en Samarie et que les Samaritains qu'on haïssait, que les Juifs haïssaient, avaient reçu la parole de Dieu. Alors ils envoient une délégation, Pierre et Jean. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. Ce n'était pas une nouvelle Pentecôte, le Saint-Esprit était descendu à la Pentecôte. Mais ce que les apôtres ont fait, c'est prier sur eux, pour que ces Samaritains, eux aussi, reçoivent le Saint-Esprit. Et ils ont reçu le Saint-Esprit des mains des apôtres de Jérusalem. Parce que dans le plan de Dieu, c'était vraiment lier les Samaritains à Jérusalem. Ce n'est pas indépendant de Jérusalem. Il faut qu'il y ait unité et qu'ils soient dans la même alliance. Et qu'ils comprennent que vraiment le salut vient des Juifs. Alors, il emploie les apôtres juifs pour leur imposer les mains, s'identifier à eux, et ils reçoivent le Saint-Esprit. Dire, eh bien maintenant, nous allons imposer les mains pour que d'autres reçoivent le Saint-Esprit, ça peut être dangereux. On peut prier, oui, mais il ne faut pas faire là une autre Pentecôte. Il y a eu une Pentecôte, le Saint-Esprit était là et il est donné pour les Samaritains d'une façon spéciale. On verra plus loin d'autres exceptions par les disciples. Car ils n'étaient pas encore descendus sur aucun d'eux, ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Et alors, par la prière des apôtres, Jean et Pierre, eh bien, ils ont reçu le Saint-Esprit, et qui les a scellés pour le Seigneur, est lié à Jérusalem. Ce ne sera pas une église indépendante de Jérusalem, mais en communion avec celle de Jérusalem. Alors, lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent. Vous voyez que son cœur n'était pas changé. En disant, accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive aussi le Saint-Esprit. Jusque-là, il se faisait toujours payer dans les séances qu'il faisait avec sa puissance. Alors maintenant qu'il voit que les apôtres ont une autre puissance, il voudrait avoir cette vraie puissance. Mais Pierre lui dit, que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Et c'est ce qu'on a appelé, du nom de Simon, la simonie, hein, quand on veut toujours avoir de l'argent, payer des dons avec de l'argent. Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire. Donc il est bien certain qu'il n'était pas réellement converti, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Et alors, pour ceux qui ont été étonnés de la dureté de Pierre, vis-à-vis, enfin, ce qui semble être de la dureté d'Ananias et Saphira, peuvent voir ici que Pierre n'est qu'un instrument de Dieu. Il n'arrivera pas à Simon le magicien ce qui est arrivé à Ananias et Saphira, qui avaient la connaissance de Dieu, qui avaient une responsabilité dans l'église de Jérusalem, qui étaient des conducteurs, ils ont été retranchés.
Tandis que pour Simon, qui est dans un état terrible, eh bien, Pierre lui dit ce qu'il voit dans son cœur. « Je vois que tu es dans un fiel amer et dans des liens d'iniquité. » Alors Simon répond, « Priez vous-même, Seigneur, le Seigneur, pour moi, afin qu'il n'arrive rien de ce que vous avez dit. » Parce qu'il se rend compte que si ça arrive, ce que Pierre lui a dit, il est perdu. Mais Pierre lui donne un temps. Enfin, Dieu lui a donné un temps, mais pour quelle raison? Parce que c'est un Samaritain. Il faut qu'il ait la possibilité de se repentir. Et c'est ce qui lui a été dit. Repens-toi de la méchanceté de ton cœur. Parce que lui, il n'est pas instruit dans les vérités que connaissaient Ananias et Saphira. Verset 25. Et après l'avoir prêché, Pierre et Jean retournèrent à Jérusalem en annonçant la bonne nouvelle dans plusieurs villages des Samaritains. Quel changement, hein? Quel changement maintenant. Ils s'en vont partout annoncer la bonne nouvelle dans ces villages de Samarie. Et Philippe est donc là en Samarie, au milieu d'un travail merveilleux. Il a eu des résultats fantastiques. Puis à ce moment-là, vous avez cet appel. Et c'est 26. Un ange du Seigneur, s'adressant à Philippe, lui dit, « Lève-toi et va du côté du Midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. » Qu'est-ce qu'on peut dire? Mais, Seigneur, ce n'est pas possible. Tu vois l'œuvre qui s'accomplit ici. Je suis devenu indispensable, on ne peut pas laisser ces bébés en crise tout seuls. Ils ont besoin de moi. Puis on pourrait se dire aussi, pourquoi est-ce que l'ange n'a pas été lui-même parler à Philippe, à l'eunuque? Pourquoi? C'est pas les anges qui vont évangéliser. C'est les pécheurs, parce que les anges ne sont pas pécheurs. Les anges sont des esprits administrateurs employés envers ceux qui doivent hériter du salut. Mais qui est-ce qui doit annoncer l'évangile? Ce ne sont pas les anges, ce sont les hommes. C'est à vous, jeunes gens, jeunes filles, de rendre témoignage. C'est ce que vous demande le Seigneur. Un ange du Seigneur vient vers Philippe. Mais m'envoyer sur un chemin désert, je ne comprends pas, non. Il y a beaucoup de choses que je n'ai pas compris, pourquoi Dieu me demande telle ou telle chose. Mais si c'est lui qui me le demande, je n'ai qu'à obéir, sans me soucier des risques et des conséquences. Alors il s'en va sur ce chemin désert. Il doit méditer et se demander, mais pourquoi m'envoyer au désert quand il y a une ville qui a besoin de moi? Et puis voici que tout à coup, eh bien, comme on le disait aux enfants, il a entendu le bruit d'un char qui venait. Et voilà que c'était un ministre éthiopien, un eunuque, ministre de la reine de Candace, reine d'Éthiopie, intendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer. Vous voyez, les païens en avaient marre des idoles. Et on leur avait dit qu'à Jérusalem, il y avait le vrai culte. Alors il a fait ce long voyage pour aller à Jérusalem. C'est Jérusalem qui venait de tuer qui? Le Seigneur. Le Seigneur. Alors, est-ce qu'il pourrait trouver la vérité là dans la ville criminelle? Alors, il n'avait pas trouvé, mais en s'en retournant, assis sur son char, il lisait le prophète Ésaïe. Il était reparti avec le prophète Ésaïe, avec un rouleau d'Ésaïe qu'il avait pu acquérir. Et grâce à cela, il avait un trésor plus grand que les trésors de la reine de Candace. Hein, vous pouvez en être sûr. Il avait la parole. Alors Philippe accourt et il entend cet Éthiopien qui lisait à haute voix le prophète. Philippe s'approche. Comprends-tu ce que tu lis? Et il répondit, mais comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Il est ministre, il est éduqué. Il a une grande connaissance, mais il confesse qu'il ne comprend pas, qu'il faut qu'on l'instruise. Alors il invite Philippe
à monter et à s'asseoir avec lui. Vous savez, quand on obéit au Seigneur, il nous donne des occasions. Tout le monde n'est pas évangéliste, hein, mais tous, vous pouvez faire dans vos déplacements une rencontre avec une âme que le Seigneur place devant vous, à laquelle vous pouvez témoigner et qui peut être amenée au Seigneur par votre témoignage. Il n'y a pas besoin d'avoir le titre d'évangéliste ou la fonction d'évangéliste. C'est criminel, hein? Non, nous allons terminer, hein? Ça me fait penser à un ami qui travaille avec Cedar Lodge, qui a trouvé un nid de souris dans la cabane triple. Il l'a pris délicatement, puis les a envoyés dans la nature. Il a dit, elles n'ont rien fait. Il y a un témoin. Il ne les a pas tuées. Alors, il y a une petite souris qui... N'ayez pas peur d'une souris. Et voilà ce merveilleux chapitre 53 d'Ésaïe que vous connaissez. Je vous l'ai dit, il a été le moyen de ma conversion réelle au Seigneur quand j'avais 13 ans et demi. C'était ce chapitre qu'il lisait. Le passage de l'Écriture qu'il lisait est celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie et comme un agneau muet devant celui qui le tend. Il n'a point ouvert sa bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé. Et sa postérité, et qui la dépeindra? Car sa vie a été retranchée de la terre. Et l'eunuque dit à Philippe, « Je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelque autre? » Et alors Philippe, il est introduit, ouvrant la bouche, et commençant par ce passage, qu'est-ce qu'il lui a annoncé? La bonne nouvelle de Jésus. Il lui a présenté une personne. Et comme ils continuaient leur chemin, bien, l'œuvre de Dieu s'est faite dans son cœur en écoutant Philippe lui présenter la personne de Jésus qui a porté nos péchés et par les meurtrissures duquel nous sommes guéris. L'œuvre s'est faite et tout à coup l'eunuque voit de l'eau et dit « Mais qu'est-ce qui m'empêche que je sois baptisé ?» Il comprend qu'il veut renoncer à sa vie pour vivre d'une vie nouvelle, celle de Jésus. Philippe lui dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et je vous le demande, à vous ce soir, est-ce que nous sommes tous de ceux qui le croient? Individuellement, dans ce 4 juillet 1989, est-ce que nous croyons que Jésus-Christ est le Fils de Dieu? Que nous croyons du cœur? Alors il fit arrêter le char, Philippe et l'eunuque descendirent, tous les deux dans l'eau, et Philippe baptisa l'eunuque. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit enleva Philippe, et l'eunuque ne le vit plus. C'est pas à un homme que l'on doit s'attacher, c'est au Seigneur Jésus. L'homme n'est qu'un instrument sur le passage de son prochain. Tandis que joyeux, l'eunuque poursuivit sa route. Et l'on peut bien penser qu'il a été le premier à annoncer l'évangile dans ce pays d'Afrique. Philippe, quant à lui, se trouva dans Azoth, c'est Asdot, comme on l'appelle aujourd'hui, d'où il alla jusqu'à Césarée. Mais en faisant son voyage, depuis Azoth à Césarée, qu'est-ce qu'il faisait? Il évangélisait toutes les villes par lesquelles il passait. Il ne perdait pas son temps et il apportait le message qu'il avait donné en Samarie, il l'apportait à Dieu. Dieu notre Père, nous te remercions
pour tous les enseignements que tu veux nous donner dans ces chapitres des Actes. Nous te bénissons de nous montrer que tu traites chaque cas individuellement selon ta sagesse. Nous avons été peut-être choqués, frappés par la mort d'Ananias et Saphira. Nous avons peut-être pensé que nous, si nous avions été à ta place, nous aurions agi autrement. Mais tu es Dieu. Et toi seul, tu as raison. Tu sais ce que tu fais. Et nous nous courbons devant tes voies. Mais ce que nous voyons aujourd'hui, c'est que même pour un magicien, tu lui donnes encore une occasion de se repentir parce qu'il est dans l'ignorance. Ô Seigneur Jésus, donne-nous de ne jamais te juger, mais de nous juger nous-mêmes. Et que nous puissions reconnaître que tes pensées ne sont pas nos pensées, que tes voix ne sont pas nos voix, mais que tes pensées sont parfaites. Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la connaissance de Dieu, que tes jugements sont insondables et tes voies introuvables. Qui a connu la pensée du Seigneur? Qui a été son conseiller? De lui, par lui et pour lui sont toutes choses. À lui la gloire, au siècle des siècles. Amen. Demain, mes amis,